La joie, c'est la possession d'un bien, de quelque chose qui est bon pour moi, la proximité d'un bien, proche du plaisir qui touche davantage le corps, qui regarde plutôt le corps. La joie, c'est quelque chose qui regarde plutôt l'âme. La joie, c'est quelque chose qui me comble. Et je disais que le plaisir se paye après, c'est-à-dire que je peux avoir un plaisir très rapide, un plaisir immédiat même, un plaisir fort, puissant, mais qui va me laisser dans une espèce de dépression assez vite. C'est-à-dire si l'objet convoité, si le bon disparaît. Vous voyez, par exemple, je passe une très bonne soirée, avec des amis. Il peut y avoir... Alors, ce n'est pas tout à fait un bon exemple. L'exemple type, c'est... Je passe une soirée où je m'amuse un peu frénétiquement. Je peux avoir un certain plaisir. Je bois bien. Mais le lendemain matin, la gueule de bois, ou je paye la soirée d'avant. La joie, c'est quelque chose que je prépare, que je gagne, que je conquiers. Je monte sur une montagne, je monte sur un sommet, c'est dur, je fais des efforts pour y arriver, mais une fois que je touche cette joie, même en redescendant, je la conserve et elle demeure longtemps. Il y a quelque chose qui demeure, il y a une permanence de la joie. Je cherche une joie qui puisse durer longtemps, je cherche une joie qui m'entraîne peu à peu vers quelque chose même qui persiste toujours. Je cherche une joie permanente. Je sens que le plaisir ne peut pas être permanent. Le plaisir est toujours momentané. La joie, elle est permanente. La joie, je vais chercher ça chez saint François d'Assise. La joie, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Quand j'ai enlevé toutes les choses superflues, quand j'ai enlevé toutes les couches qui recouvrent toutes les richesses, je découvre la joie tout au fond. Saint François d'Assise a découvert la joie en épousant Dame Pauvreté. Quand il a pris la décision d'entrer radicalement dans la pauvreté. Pauvreté, alors lui, il avait une espèce de charisme pour la pauvreté non seulement spirituelle, mais la pauvreté matérielle, radicale. Et il a commencé à découvrir la joie à ce moment-là. Il avait connu de très grands plaisirs de la fête. Et puis, petit à petit, s'était installée chez lui une espèce de dépression, la dépression de quelque chose qui perd son sens, d'une vie qui n'a pas de sens. Et il a retrouvé le sens de cette vie dans le fait d'épouser Dame Pauvreté, et la joie a été presque immédiate pour lui quand il a commencé à prendre cette décision de radicale. Plus tard, la joie se transformera pour lui à travers les épreuves, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Je sens que la joie a quelque chose à voir avec l'amour. Si l'amour est bon, si l'amour est même mon bien par excellence, si l'amour est ce que je cherche par excellence, la proximité avec l'amour, l'expérience de l'amour est quelque chose qui me rend joyeux. Et donc la joie a certainement beaucoup à voir avec l'amour. Si l'amour est mon bien par excellence, je me complais dans l'amour, même j'y trouve le sens de ma vie, aimer et être aimé. La joie, elle est connexe, la joie vient avec l'amour. Et là encore, chez saint François d'Assise, la joie, elle est très très proche de la paix. C'est pas tout à fait équivalent, mais c'est quand même très très proche. La paix, c'est quand mon âme est rassasiée. Et quand mon âme est rassasiée, rassasiée d'amour, il y a quelque chose qui la comble de paix. Et moi, je suis joyeux, je vis la joie. Il y a quelque chose qui devient léger en moi. Et je voudrais retenir cette notion de légèreté dans la joie. Il y a quelque chose qui me fait monter, il y a quelque chose qui me fait exulter. La vraie joie, elle m'élève, elle me grandit, elle me fait monter. Alors, le titre de la conférence, c'est « La joie de la sainteté ». Alors, un mot sur la sainteté. La sainteté, c'est vivre dans l'amour de Dieu. La sainteté, c'est vivre uni à Dieu. La sainteté, c'est entrer dans l'amour de Dieu et vivre de son amour. Respirer de sa respiration, c'est la sainteté, c'est quand je fais un avec Dieu, et même quand je serai divinisé, c'est-à-dire élevé dans la gloire de Dieu, élevé jusqu'à lui, dans son amour, vivre de son amour et répondre à son amour dans un face-à-face éternel, je le verrai tel qu'il est, parce que je serai semblable à lui, dit saint Jean dans son épître. Et ça, c'est la sainteté. Alors, je comprends que la sainteté et la joie sont très proches, évidemment. La sainteté est source de joie profonde. C'est Jésus, dans l'évangile de saint Jean, qui dit « Celui qui garde mes commandements demeure en moi, et moi je demeure en lui. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure en lui, et lui demeure en moi. » Et il ajoute immédiatement, c'est chapitre 15 de saint Jean, versets 9 et 10, il ajoute immédiatement « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et pour que votre joie soit parfaite. » Il n'y a pas énormément d'endroits où Jésus parle de la joie comme telle. Mais là, c'est vraiment un lieu très, très important parce qu'il parle directement à ses apôtres au moment où lui-même va partir à sa passion. Il va entrer dans les grandes douleurs de la passion et il situe la joie comme fruit, en quelque sorte, de ce fait de demeurer en Dieu, ce fait de demeurer en lui. Et je demeure en lui si je garde ses commandements, et son commandement, c'est de nous aimer. Mon commandement, le voici, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et on tourne un peu en rond, c'est-à-dire, petit à petit, la sainteté et la joie se lient. La sainteté, l'amour, la joie, il y a quelque chose qui est profondément lié, là. Alors, dans l'amour, je vois trois étapes importantes. Je vois trois dimensions importantes, mais qui sont successives et en même temps, finalement, qui vont tourner en boucle en permanence dans ma vie. L'amour, d'abord, est don. L'amour, fondamentalement, est un don. Mais dans une deuxième étape, j'y reviendrai, hein, la première évidemment, là, dans une deuxième étape, l'amour est pardon, au-delà du don. Au-delà, le pardon, c'est aimer au-delà d'une faute, au-delà d'une offense, au-delà d'une blessure. Et l'amour se renforce dans le pardon, l'amour est plus puissant dans le pardon. L'amour gagne en intensité dans le pardon. Et puis finalement, au-delà du pardon, il y a l'abandon. Celui qui a pardonné et celui qui est pardonné peut s'abandonner à l'amour. Et je pense que c'est l'achèvement de l'amour dans l'abandon. Je m'abandonne à celui qui m'aime au point de me pardonner. Alors je vais essayer successivement de regarder ces trois grandes étapes et de regarder la joie du don, la joie du pardon et la joie de l'abandon. On aurait certainement pu trouver autre chose, enfin autrement à envisager la joie. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit qu'au fond, décortiquer les choses de cette manière pouvait peut-être nous conduire à comprendre un peu mieux ce que c'est que la joie et surtout à la vivre. La joie du don, je regarde d'abord Dieu qui donne. La joie de Dieu qui donne. Qu'est-ce que Dieu donne ? Dieu donne essentiellement dans sa création d'abord, en tout premier. Alors éternellement, évidemment, Dieu vit le don de l'amour. Et Dieu, le Père se donne au Fils, le Fils se reçoit et se redonne. Et entre le Père et le Fils, l'Esprit Saint qui procède de l'un et de l'autre. Mais on peut pas tout à fait parler de joie en Dieu. La joie, elle est quand même de ce monde. Au-delà de ce monde... Dans l'éternité, on parlera plutôt de bonheur, on parlera plutôt de béatitude. Au fond, la joie est quand même une caractéristique humaine incarnée. Au sens tout à fait propre, je ne crois pas qu'on puisse parler de la joie en Dieu, au-dedans de la Trinité. La joie de Dieu, on parle par analogie, Dieu qui crée, quand on dit dans la Genèse à plusieurs reprises, Dieu vit que cela était bon, On entend derrière la joie de Dieu. Et quand il dit que cela était très bon, moi je regarde Dieu qui crée l'homme et qui donne finalement la femme à l'homme, et qui voit que cela était très bon, il y a une certaine joie qui sera un peu celle, analogiquement, des parents qui donnent la vie à leur enfant. La joie de Dieu dans la création, elle chante. Si on lit le texte de la Genèse dans ce sens, il y a une espèce d'exultation dans la Genèse qui est magnifique. Il y a une espèce de... D'abord, c'est une poésie très belle. Puis il y a une espèce de... Oui, d'exultation, de grande joie. La création est une espèce de profusion magnifique. Ça déborde, quoi. Ça comble l'univers. Et Dieu crée avec une espèce d'excès. Enfin, je pense souvent aux 600 litres d'eau qui sont transformés en vin en os de canard. 600 litres, c'est beaucoup trop. Mais quand je pense aux milliards d'espèces, enfin, il y a encore une quantité d'espèces animales et des insectes et des fleurs qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a toujours pas découvertes, il y a une espèce de profusion dans la création qui est... Dieu donne sans limite, Dieu donne, et quand, sans parler des milliards de milliards d'étoiles qui sont dans le ciel et qui sont pour le simple plaisir de l'homme, il y a une espèce d'excès dans le don qui est absolument fabuleux. Cette joie de Dieu, je la vois manifestée dans la joie de Jésus. La joie de Jésus qui reçoit, la joie de Jésus qui est... Je regarde par exemple Jésus, petit enfant, qui découvre peu à peu son Père. Ça, c'est quelque chose que nous a appris le pape François, pour moi, qui était nouveau. Jésus a découvert la paternité de Dieu à travers la paternité de Joseph. Moi, je trouve ça extraordinaire, ça. Je trouve ça très, très beau de penser ça. À mesure que Jésus a pris conscience de l'amour de son Père de la terre, son Père Joseph, il a découvert la paternité de Dieu. Et de fait, pour ceux qui ont eu la chance comme moi d'avoir un père de la terre, un Père fort, un Père bon, un père dont on est fier, moi quand je pense à Dieu, quand je pense à la paternité de Dieu, je vois mon Père immédiatement. Je vois mon père, je vois aussi les prêtres qui m'ont beaucoup marqué, un père spirituel qui a été vraiment mon père. Je vois ça à travers... J'admire que Jésus ait découvert cette paternité de Dieu à travers celle de Joseph. Tout en éprouvant celle de Joseph, quand il a 12 ans au temple, il éprouve cette paternité de Joseph, mais en découvrant avec joie la joie d'un petit garçon de 12 ans, la joie très mûre pour Jésus, mais la joie d'un garçon de 12 ans, la joie d'être au temple et de bavarder avec les docteurs sur les réalités de son Père, les réalités de Dieu. Je vois Jésus qui exulte. Ça, c'est un moment rare dans l'Évangile, où on pénètre un peu, où Jésus nous laisse pénétrer dans sa prière. Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants. Tu les as révélées aux tout petits. Il y a une exultation de Jésus. D'ailleurs, c'est en toutes lettres dans l'Évangile. Jésus exulta intérieurement. Il y a une joie profonde de Jésus qui découvre la sagesse de son Père, qui découvre la sagesse de la conduite de son Père. Père, oui, je te rends grâce que tu aies caché tout ça aux sages et aux savants. Tu l'as révélé aux tout petits, c'est-à-dire... Comme tu es sage dans ta manière d'aimer, comme dans ta manière de te donner. Il y a quelque chose qui est très très mystérieux dans la relation entre Jésus et son Père. Hein. On pénètre à peine, on balbutie quand on essaye de regarder le lien entre Jésus et son Père. Mais même dans la prière du Notre Père, on peut « Père, que ton nom soit sanctifié ». On peut entendre en filigrane derrière la prière de Jésus cette joie profonde d'appartenir à son Père, d'être à lui et de lui obéir. Jésus obéit à son Père et c'est sa joie. On pourrait citer une quantité de psaumes où est relevée la joie de l'obéissance, la joie d'accomplir les commandements. Si Jésus dit à ses apôtres, celui qui garde mes commandements demeure en moi comme, et moi en lui, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure en lui et que lui demeure en moi, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Ma joie, c'est de garder les commandements de mon Père. Ma joie, c'est d'être dans la volonté de mon Père. C'est le drame, on va y venir après dans le chapitre sur le pardon, mais c'est le drame de l'homme d'avoir quitté cette joie. C'est le drame de l'homme au péché originel d'avoir quitté la volonté de Dieu en voulant lui-même être Dieu à la place de Dieu, en voulant lui-même décider du bien et du mal, en voulant lui-même faire l'amour au lieu de le recevoir pour le transmettre et l'échanger, en voulant lui-même faire son bonheur au lieu de le recevoir de Dieu. Le jour où j'ai voulu devenir indépendant, j'ai quitté la liberté, j'ai perdu ma liberté. J'y travaille énormément en ce moment parce que ça me fascine. L'amour est une dépendance radicale. L'époux qui ne dépend plus de son épouse, il n'est plus époux. L'épouse qui ne dépend plus de son époux, elle n'est plus épouse. L'amour est une dépendance radicale. Je dépends de mes enfants à qui j'ai donné ma vie. Je dépends de mes parents. Et puis petit à petit, mes parents vont dépendre de moi quand ils vieillissent. S'il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus d'amour possible. Mais cette dépendance est une vraie liberté. Je garde et je cultive cette liberté dans cette dépendance. Et ma liberté, c'est ma joie. C'est profondément joyeux d'être libre. Et je suis profondément joyeux dans cette dépendance d'amour. Comment est votre prière de louange? Comment est notre prière de louange pure? Père, je te rends grâce. Père, je te bénis pour ta grandeur, ta bonté. Je suis dans sa main. Je vis de sa vie. J'existe par son amour. Je subsiste dans son amour. Et ça, c'est ma joie profonde. Et si je quitte ça, je coupe ce lien qui me relie à Dieu, je romps ce lien d'amour, je romps cette dépendance, je deviens indépendant, mais je perds ma liberté. Petite parenthèse, mais pas juste pour prolonger un tout petit peu cette réflexion, mais je pense qu'on confond énormément l'indépendance et l'autonomie. C'est bon l'autonomie, mais l'indépendance, c'est catastrophique. La femme qui devient indépendante et qui veut gagner son indépendance, c'est une catastrophe. Elle n'est plus épouse. La femme qui revendique son autonomie, c'est bon. Et c'est normal, et il faut la défendre absolument. La mère poule, par exemple, elle empêche ses enfants d'être autonomes. La mère poule surprotège ses enfants et les empêche radicalement d'être autonomes. Une bonne mère, une bonne éducatrice, un bon éducateur veut que ses enfants deviennent autonomes pour qu'ils puissent un jour s'orienter et choisir la vie qu'ils veulent librement. Un enfant ne sera un jeune homme ou une jeune fille libre, une jeune femme libre, que si elles sont autonomes, que si on a gagné l'autonomie. Dieu voulait absolument que l'homme et la femme soient autonomes dans leur amour, mais sans quitter cette source qu'il est lui-même. Et de fait, quand je quitte cette dépendance, quand je quitte le lien d'amour, je perds la joie. Ça, c'est une caractéristique. Ça, c'est très, très. Je pense qu'on en a tous fait un peu d'expérience dans le péché. Pourquoi le péché les rend-il tristes? Parce que je perds ce lien de dépendance d'amour. J'ai voulu moi-même prendre l'indépendance. J'ai voulu moi-même décider à la place de Dieu. J'ai quitté sa volonté. La joie de l'homme qui reçoit la création. La joie d'Adam qui reçoit son épouse. Le cri de joie d'Adam. Ce coup-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. La joie de l'homme qui découvre l'amour. Ah, il faut lire le Cantique des Cantiques. C'est peut-être le grand livre de la joie pour moi. C'est peut-être dans la Bible le grand livre de la joie. Parce que c'est le grand livre de l'amour. Le grand livre de ce chant d'amour qu'on peut prendre à plusieurs niveaux, qu'on peut prendre au niveau simplement humain, de l'époux, enfin de le bien-aimé et la bien-aimée, mais qu'on peut prendre à un niveau supérieur de Dieu avec l'humanité, de Christ avec l'Église. Enfin, il y a plusieurs étages possibles, mais ce grand, on pourrait dire cette espèce de cache-cache d'amour, le livre du Cantique, c'est une merveille, vraiment. Il faudrait le lire, et il ne faudrait pas passer un mois sans lire le Cantique des Cantiques. La joie, c'est aussi la joie de l'enfant qui découvre ses parents. J'en ai parlé pour Jésus, mais l'enfant qui est paisiblement dans l'amour de ses parents, il est profondément joyeux. Il est profondément paisible dans cette joie qui va se traduire par le sourire. Et puis, les époux qui découvrent l'enfant qui est le fruit de leur amour, il y a une joie très très profonde là, qui est l'amour donné, l'amour échangé, qui produit son fruit et qui est un fruit de joie, une joie extraordinaire. Faudrait faire un peu, et ça, un peu à chacun de le faire, l'inventaire des joies qu'on peut vivre. L'inventaire des joies que nous avons connues dans notre vie, et essayer de découvrir chaque fois le lien entre l'amour et la joie, entre le don et la joie, l'amour donné, l'amour reçu, l'amour redonné, l'amour don. Alors on pourrait regarder, je voudrais le faire quelques instants avec vous, mais la joie de Marie, évidemment. Personne ne vit aussi bien la joie que Marie. Marie et l'Annonciation. Je montrerai tout à l'heure que je suis fasciné, moi, par le fait que les mystères joyeux sont déjà douloureux, mais les mystères joyeux, avant d'être douloureux, ils sont quand même joyeux profondément. La joie de Marie qui découvre qu'elle est tellement aimée, elle est toute bouleversée par cette salutation. « Je te salue, comblée de grâce. » Marie fut toute bouleversée par cette salutation. Elle se demandait ce que ça signifiait. « Ne crains pas, Marie. » Tu es bénie entre les femmes. C'est une joie très, très pure, une joie très... Même la joie de Marie, quand je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu as dit, Marie s'en remet totalement. Comme on disait, Jésus se remet à la volonté de son Père, il s'abandonne à la volonté de son Père, mais il y a une joie profonde de Marie qui reçoit ce don, le don de la vie. J'y reviendrai justement dans l'abandon, mais là je voudrais regarder plus le don. Je regarde Marie courir sur les collines de Galilée, de Jérusalem, de Judée pour aller à la rencontre de sa cousine dans le deuxième mystère, la visitation. Il y a là aussi une joie très pure. Elle court vers Élisabeth et à la rencontre d'Élisabeth, et elle est en même temps, elle permet à Jésus d'aller jusqu'à Jean-Baptiste et. Et en même temps, elle est elle-même mue par cet amour qu'elle porte, dont elle est comblée. C'est extraordinaire, ça. Vous pouvez regarder la joie profonde, la joie simple, pauvre, radicale de Marie et Joseph au moment de la naissance à Bethléem. La joie de la crèche est une joie très, très pure, une joie très pure parce qu'elle est à la manière de... c'est Saint François d'Assise qui est plutôt la manière de Jésus, de Joseph et de Marie, mais il y a une joie franciscaine à la crèche qui est très radicale, qui est très, très pure, très très pure. Et les bergers sont accueillis dans cette joie, ainsi que les mages d'ailleurs. Il y aura, à la présentation de Jésus au Temple, il y aura assez vite l'ombre de la douleur de la prophétie de Siméon. Mais avant la prophétie de Siméon, il y a la joie de Joseph et de Marie qui remettent l'enfant à Dieu, qui présentent cet enfant, qui comprennent, qui ont profondément pris conscience que cet enfant ne leur appartient pas, qu'il appartient à Dieu, et ils le remettent à Dieu, à travers d'ailleurs les bras de Siméon. Si ce que je disais tout à l'heure est vrai, la joie c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, c'est l'offrande de leur enfant qui creuse encore un peu plus leur joie. L'offrande de Marie et de Joseph à la présentation au temple, c'est une joie extrêmement pure, là encore, qui est une joie radicale. Nous avons peu d'expérience, trop peu, mais peu d'expérience de cette joie radicale, je crois. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose que Dieu voudrait nous faire vivre, nous faire expérimenter. Notre joie est souvent un peu ternie par... il faut revenir à notre expérience. Hein. Dès que je garde un petit peu pour moi, dès que je retiens un petit peu le don, dès que je me freine un peu, je diminue la joie. Et ce qui est terrible, c'est qu'on en fait l'expérience de temps en temps, mais on continue à avoir du mal à donner d'une façon pure, à donner d'une façon vraiment gratuite. Et pourtant, je pense que nous en avons tous fait l'expérience, plus je donne gratuitement, plus je donne librement, et plus la joie est profonde. D'ailleurs, saint Paul le redit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est vrai. Alors, la joie du pardon, puisque l'amour est don, l'amour est pardon, la joie du pardon, le pardon reçu, le pardon donné. Là encore, on peut parler de la joie de Dieu qui pardonne. Il y a une parole très très forte, moi, qui est une des paroles de l'Écriture qui m'a toujours énormément marqué, au chapitre 8 du livre de Néhémie, « La joie du Seigneur est notre rempart ». La joie du Seigneur est notre rempart. Qu'est-ce que c'est la joie du Seigneur ? La joie du Seigneur, c'est de faire miséricorde. La joie du Seigneur, c'est de pardonner. La joie du Seigneur, c'est de rétablir ce lien d'amour qui a été brisé par le péché. On peut dire vraiment que la joie de Dieu, c'est la miséricorde. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 qui n'ont pas besoin de conversion. C'est un prêtre qui disait ça un jour, je trouvais que c'était exagéré mais très beau. Dieu aime, c'est exagéré de dire que Dieu aime le péché, mais Dieu a permis le péché parce que ça lui permet de faire miséricorde. Et c'est sa joie. Et de fait, c'est vrai, Dieu n'est jamais autant heureux. Alors, parler de Dieu heureux, c'est toujours... Mais si je prends la phrase de l'Évangile, ça c'est Jésus, plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, c'est la joie du ciel de me voir me retourner à Dieu en prenant conscience d'une faute. Parce que Dieu peut m'embrasser, Dieu peut me prendre dans ses bras, Dieu peut m'étreindre. Dans Saint-Luc, il y a toutes les paraboles de la miséricorde qui sont très très significatives de ce point de vue. Parabole de la femme qui a perdu la drachme, la parabole du berger qui a perdu une brebis, qui laisse 99 pour aller chercher celle qui est perdue, qui la ramène sur ses épaules. Il y a une joie dans ces paraboles qui est extraordinaire. Et puis alors, évidemment, la parabole des paraboles, la parabole de l'enfant prodigue. Quand l'enfant revient chez son père, le père le voit de loin, et on traduit un peu platement dans nos évangiles, il est saisi de pitié, mais en réalité, il est bouleversé dans ses tripes. Il est bouleversé dans ses tripes, qu'est-ce qui le bouleverse ? C'est la joie de voir son fils. D'ailleurs, il le dit au fils aîné qui a du mal à l'accepter. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Et ça, c'est la joie profonde du père qui est bouleversé, encore une fois, qui est remué au plus profond de son être. La joie du Seigneur est notre rempart. Je trouve que c'est très très fort, cette parole. Jésus, je regarde Jésus au moment de sa crucifixion, quand il est, au moment où il est cloué, au moment où on plante les clous dans les mains et dans les pieds, et Jésus qui trouve la force de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus sait que c'est la joie de son Père de pardonner. Et si c'est la joie de son Père, c'est sa joie à lui aussi. C'est difficile d'en parler, mais je pense quand même qu'on peut parler de la joie de Jésus crucifié. D'ailleurs, ce sera la joie de Jésus, la dernière joie de Jésus avant de mourir, c'est la joie du pardon au bon larron. Il n'est pas mort pour rien, il est mort au moins pour un qui s'est converti. Et qui se convertit au dernier moment. Dans les dernières minutes de sa vie, il fait cette promesse au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a une « Père, entre tes mains, je remets mon esprit, tout est accompli. » Oui, tout est accompli, j'ai donné tout. J'ai donné tout et c'est ma joie. Elle est complète, elle est parfaite. Je pense qu'on peut dire que, évidemment, la douleur, la souffrance de Jésus est insondable, elle est un mystère impénétrable, tellement elle est profonde et puissante. Elle est traduite par ce « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais je pense quand même qu'on peut parler de la joie de Jésus qui meurt. La joie d'abord d'avoir accompli la volonté jusqu'au bout, la volonté de son Père, et la joie de la conversion du pécheur, et la joie peut-être plus grande encore, certainement, quand je dis peut-être, c'est certainement plus grande encore, la joie incomparable de sa mère qui est là, au pied de la croix, et qui est le fruit le plus excellent de son propre don. Il a donné sa vie, il donne sa vie, et le don de la croix est la source de la grâce dont Marie est comblée. C'est le sang et l'eau qui couleront du cœur du Christ qui donne naissance à qui même donne naissance plus que naissance qui donne l'Immaculée Conception. C'est l'Immaculée Conception est le premier fruit et le fruit par excellence, le fruit parfait de ce don de Jésus qui se donne jusqu'au bout. Et Jésus le sait, non seulement il le sait, mais il en vit. Il en vit dans la mort. Il donne sa vie pour ça. Mourir parce que la mort nous tombe dessus, c'est terrible. Mourir parce que on subit la mort, c'est terrible. Il y a quelque chose qui est affreux. Mais mourir en aimant, mourir d'amour, c'est... Pardonnez-moi parce que c'est difficile de parler de ça, mais c'est délicieux. Enfin, il y a quelque chose qui est délicieux. Il y a quelque chose qui est un délice d'offrir, de déposer sa vie. Et de déposer sa vie pour quelqu'un, pour que quelqu'un d'autre puisse vivre, c'est quelque chose qui est... Alors là, on voit l'expérience de certains saints, évidemment, qui donnent leur vie, les martyrs, mais aussi... des mamans qui ont accepté de mourir pour que leur enfant vive, ou des choses de ce genre. Et qui sont toujours des témoignages de joie très, très bouleversants, évidemment. C'est la joie, chaque fois, la joie de la miséricorde qui efface la faute. Qui efface la faute, c'est pas vrai. Qui dissout la faute sous un torrent de miséricorde. C'est-à-dire, le mal est recouvert par un surcroît de bien. Il y a un tel surcroît d'amour dans la miséricorde. Il y a quelque chose qui inonde, vous voyez, comme un incendie qui est recouvert par un véritable tsunami, une inondation radicale. Le péché est dissous dans ce flot incomparable d'amour qu'est la miséricorde. Alors on pourrait, j'ai pas tellement le temps de faire le détail, mais on pourrait regarder un peu les grands pécheurs pardonnés dans l'Évangile. Marie-Madeleine, la joie de Marie-Madeleine qui pleure et qui essuie les cheveux après de Jésus avec qui essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. La joie profonde de Marie-Madeleine qui sait à quel point elle a été pardonnée. Et Marie-Madeleine qui sera inconsolable au tombeau le jour de la résurrection, mais qui finalement sera l'apôtre de la joie de la résurrection. Et quand elle annonce la résurrection aux apôtres, elle a parfaitement présent à l'esprit de quoi elle a été pardonnée. Vous pourrez regarder la joie de Zachée. Moi, ça, c'est c'est très impressionnant, la conversion de Zachée. Zachée qui est un immonde salaud, qui est vraiment un homme repoussant, qui est le publicain, le petit grabe-sous, et qui tout d'un coup découvre l'abondance du don qui va déborder de générosité par le fruit de la miséricorde qu'il reçoit, dont il est comblé. Mais essayons de penser à quelqu'un qui est pécheur public. Vous voyez, je sais qu'il ne faut pas juger sur l'apparence, mais il y a quand même des pécheurs publics. S'ils sont publics, c'est parce qu'on voit ce qu'ils font. Des types dégueulasses, fourbes, voleurs, menteurs. Enfin, vous voyez, le gars dont on a envie de s'en dégager, quoi. Zachée descend. Ce soir, je dois demeurer chez toi. Zachée est bouleversé par un espèce d'ouragan qui l'envahit de miséricorde. Et qui, du coup, son cœur déborde, quoi. Son cœur s'ouvre et il devient saint. Pensez à la joie de la Samaritaine. La conversation de Jésus avec la Samaritaine, c'est bouleversant. C'est « Allez, va chercher ton mari. Ben, » c'est-à-dire « j'ai pas de mari. »« Ah ben, tu as raison. Celui que tu as, c'est le sixième et c'est toujours pas ton mari. » Et la femme qui court à Sichar, là, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Est-ce qu'il ne serait pas le Christ ? Elle exulte. Il y a une espèce de... Mais, vous savez, pour des prêtres qui ont confessé, quand on a un peu d'expérience de confession, combien de confessions on a vues, des gens bouleversés, des gens avec des flots de larmes parce qu'ils ont été complètement retournés par la miséricorde. Et quelquefois, des moments où ils ne s'y attendaient pas du tout. L'expérience d'accompagner des personnes qui sont en train de mourir et qui, toute leur vie, ont été raidies dans l'orgueil ou dans l'intelligence un peu froide, le raisonnement sur la religion théorique, puis qui, tout d'un coup, en touchant la mort, qui découvrent que la religion, c'est quelqu'un, en réalité, quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui aime d'une façon... insondable. C'est bouleversant de découvrir, d'être témoin de ces conversions du bout de la vie, un peu comme celle du bon larron. Mais là, le pardon à Saint-Pierre, le petit déjeuner au bord du lac, vous rappelez, Pierre, m'aimes-tu ? Les trois Pierre, m'aimes-tu ? La troisième fois, Pierre, qui est resté un peu au bord des larmes depuis 3 jours, là, depuis le reniement, et les larmes reviennent dans ses yeux, et il arrive à formuler quand même la phrase clé, « Seigneur, tu sais tout, tu sais si je t'aime, c'est toi qui sais si je t'aime. » Et Pierre est définitivement libéré de lui-même, il porte désormais une espèce de légèreté. Ça ressemble un peu au combat de Jacob. Vous vous rappelez le combat de Jacob autrefois, très très. Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Et puis finalement au petit matin, l'ange a le dessous. Jacob a vaincu, mais c'est l'ange qui le bénit. Mais Jacob partira en boitant. C'est extraordinaire ça. Et il boite, mais Jacob partira. Toute sa vie, il va garder ce souvenir indélébile de la bénédiction qu'il a reçue dans ce combat spirituel, dans cette lutte avec l'ange. C'est très mystérieux, ce combat de Jacob, hein, mais on peut y voir beaucoup, beaucoup de choses. On peut y voir cette espèce de bataille qu'on mène quelquefois contre soi-même, parce qu'il y a une partie de moi-même qui voudrait rester dans le péché, puis une partie de moi-même qui voudrait s'abandonner à la miséricorde, et puis finalement, je m'abandonne, je pars en boitant, je pars fragile, je pars vulnérable, mais je pars joyeux, parce que j'ai été rétabli dans ma dignité. Je pense, j'aime beaucoup, vous le savez sans doute, mais j'aime beaucoup regarder la joie de Marie au pied de la croix. Évidemment, on parle toujours de la douleur de Marie, et c'est évident. Marie pleure, c'est en toute lettre dans l'Évangile. Elle est debout, mais elle pleure. Mais je suis intimement convaincu que, dans ses larmes, Marie chante son Magnificat, parce qu'elle comprend que l'amour est en train de vaincre la mort. Elle ne le comprend probablement pas avec les mots pour le dire, parce qu'elle est incapable de dire ce qu'elle touche par la puissance de l'Esprit-Saint. Elle le comprend par le dedans, mais elle découvre la puissance de l'amour qui se donne et qui est en train de vaincre la puissance du mal. Elle a été témoin de la conversion du bon larron, elle sera témoin dans un instant de la conversion du centurion. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et elle découvre, si je disais tout à l'heure que Jésus exulte parce qu'il se donne à sa mère, comme dans une espèce de transfusion instantanée, et Marie voit, elle découvre la source dont elle est issue elle-même. Elle découvre la source de l'amour et de la grâce dont elle est comblée. Je te salue, comblée de grâce, et toute la grâce qu'elle a reçue vient de là, vient du sacrifice de Jésus. Et Marie, il faut reprendre les paroles du Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son... » etc. Il faut reprendre calmement, doucement les paroles du Magnificat et les dire avec Marie au pied de la croix, dans cette perspective. Il y a le moment où elle le chante chez Élisabeth avec une espèce de grande légèreté. Et au pied de la croix, il y a un poids extraordinaire, il y a une gravité formidable, mais peut-être une joie d'autant plus profonde. C'est la joie de la miséricorde qui efface la faute. Je disais tout à l'heure, qui recouvre la faute. L'abîme, appelant l'abîme à la voix de tes cataractes, il y a un psaume comme ça extraordinaire. Plus le péché est grand, c'est saint Paul, hein, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a l'abîme appelant l'abîme, l'abîme du péché appelle l'abîme de l'amour de Dieu, et à la voix de tes cataractes, les cataractes de la miséricorde qui se déversent sur le péché pour combler ce. La sainteté se mesure, c'est un peu la conclusion de cette partie sur le pardon. La sainteté se mesure à la rapidité avec laquelle je reviens à Dieu quand j'ai pris conscience d'une faute. La sainteté se mesure à la rapidité avec laquelle je retourne à Dieu quand j'ai pris conscience d'une faute. Quand j'ai pris conscience d'une faute, je peux me lamenter dans cette faute et me lamenter dans la culpabilité, paralysé de trouille par le démon qui me montre du doigt et qui me dénonce, qui me... espèce de salaud, t'es un nul, puis tu oses faire des conférences et tu oses parler de Dieu et tu oses parler de l'amour alors que toi, tu es incapable de... espèce de faucheton, de... C'est signé Satan, ça. Et alors, soit je me complais dans cette espèce de... Enfin, je suis paralysé, je suis verrouillé dans cette espèce de culpabilité noire qui m'entraîne dans la dépression, au fond, qui m'entraîne dans l'angoisse. Soit, comme un enfant, je passe devant Satan sans le voir et je fonce dans les bras de Dieu, je fonce dans les bras de sa miséricorde. Et instantanément, comme le bon larron, je serai guéri, et non seulement guéri, mais introduit dans le paradis instantanément. Quand je vais me confesser, est-ce que Est-ce qui est le plus important, c'est l'amour de Dieu que je confesse, ou est-ce que je m'enferme dans mon péché? Oh mon Père, je suis nul, c'est épouvantable, je n'y arriverai pas, je suis encore retombé là-dedans. Mais la miséricorde est plus grande, la miséricorde est plus grande. Le péché ne vous arrêtera pas. C'est pas le péché qui nous arrête. Le péché, ce qui nous arrête, c'est le manque de confiance dans la miséricorde. Et la sainteté, c'est la confiance dans la miséricorde, une confiance inébranlable, une confiance éperdue. Et autant le fils prodigue s'est laissé revêtir du vêtement de noces et il a accepté qu'on tue le veau gras, finalement. Il n'a pas eu beaucoup de choix, vous allez me dire, mais il s'est laissé emporter à la fête. Et c'est le fils aîné qui n'ose pas entrer dans la fête. Il n'arrive pas à descendre de son orgueil, il n'arrive pas à descendre de sa suffisance. Il n'arrive pas à faire le pas de la bonté. La sainteté se mesure à la rapidité avec laquelle on retourne à Dieu quand on a pris conscience d'une faute. Et c'est, ça a évidemment à voir avec la joie. La joie du pardon, la joie de... La joie du pardon, si c'est la joie de Dieu de pardonner, la joie du Seigneur est notre rempart, c'est aussi la joie de chaque fois que je pardonne, chaque fois que je fais l'expérience de pardonner. Quelquefois, on est amené à faire des pardons assez lourds. Qui coûte, et puis quelquefois il faut des années pour parvenir à un certain pardon. Mais la joie qui nous envahit quand on a réussi à pardonner, c'est quelque chose qui s'expérimente aussi, ça. C'est à proprement parler, l'expérience de la joie du pardon, parce que je fais l'expérience de la miséricorde. Alors du coup, la joie de l'abandon, au-delà du pardon. Bienheureux celui qui peut s'abandonner à l'amour, qui peut s'abandonner à la miséricorde, qui s'abandonne à la volonté de Dieu. Ma joie sera parfaite. C'est Jésus qui s'abandonne à la volonté de son Père, on l'a dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quelque chose de joyeux dans l'agonie? C'est un peu culotté de ma part, hein, mais je crois que oui. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et il y a une certaine joie de Jésus à se jeter dans la volonté de son Père. Jésus a vaincu par la puissance de l'Esprit-Saint. Jésus a vaincu sa réticence. Jésus a vaincu son agonie. En quelque sorte, il est victorieux de l'agonie par l'abandon à la volonté. Il s'abandonne à la volonté de son Père. Il y a quelque chose de joyeux dans cette expérience. Évidemment, pas d'une joie qui cuit les petits oiseaux. C'est là qu'on entre dans la grave allégresse, ce que j'appelle la grave allégresse. C'est-à-dire, il y a quelque chose de... Je suis convaincu de plus en plus que dans la vraie joie chrétienne, il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui est grave, il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui... la joie chrétienne n'est pas une espèce de truc échevelé qui danse la farandole. Enfin, oui, il y a un moment peut-être pour danser la farandole, mais c'est pas ça la joie chrétienne. La joie chrétienne, c'est la certitude d'être aimé au-delà de tout, d'un amour vainqueur de tout, et d'un amour mais auquel je me livre. Au fond, s'abandonner à la volonté de Dieu ou s'abandonner à son amour, c'est la même chose. C'est rigoureusement la même chose. Et je retrouve ici des mystères joyeux de Marie, enfin, où Marie est prépondérante, là, et là, le personnage principal, en général, des mystères joyeux. Enfin, le personnage principal, c'est Jésus, mais c'est Marie qui l'expérimente. Il y a... Tiens. 1, 2, 3. C'est peut-être le truc qui est déchargé. Il n'y a plus de batterie. Vous m'entendez quand même? Les mystères joyeux sont incroyablement douloureux. Regardez comme c'est douloureux pour Marie de s'abandonner à cette nouvelle invraisemblable qu'elle est enceinte par l'opération de l'Esprit-Saint. Et je pense très profondément que sa douleur vient aussi de ce que elle sait, elle est comme prisonnière de ce mystère qu'elle porte désormais, et elle sait qu'elle va faire souffrir Joseph terriblement. Elle sait qu'elle va être pour Joseph une source de souffrance indicible. Mais elle s'en remet à l'Esprit Saint, elle s'en remet à Dieu. Elle ne peut rien dire, Marie. Elle n'est pas propriétaire de ce qu'elle porte. Elle ne peut rien dire. Elle est prisonnière de ce mystère qu'elle porte. Et elle fait confiance à l'Esprit Saint. Elle s'abandonne à l'Esprit Saint. On pourrait regarder un peu tous les mystères joyeux. La joie de Bethléem, je disais tout à l'heure, c'est une joie très très pure, mais c'est une joie qui est très très vite très grave. Quand il faut fuir en Égypte à peine les mystères joyeux vécus, il faut fuir en Égypte, c'est terrible. Le mystère de la présentation de Jésus au temple, il y a la prophétie de Siméon qui est encore incompréhensible, enfin qui vient jeter un froid. C'est pas un froid parce que c'est pas psychologique chez Marie et Joseph, mais qui vient non pas même pas assombrir, mais qui donne un poids à la joie, qui est un poids de gravité à la joie qui est extraordinaire. Et puis sans parler évidemment du cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Mon enfant, je peux rester des heures sur ce bon enfant. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Qu'est-ce que tu veux nous expliquer? Comment est-ce que je dois réagir? Mon enfant, pourquoi? Regarde comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Il y a la joie d'une maman, mais qui est terriblement lourde de cette incompréhension. Et Marie et Joseph ne comprennent pas, c'est en toute lettre dans l'Évangile, ils ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Marie gardait toutes ces choses pour les méditer soigneusement dans son cœur. Elle comprendra à la croix, pas avant. Elle comprendra quand Jésus sera au tombeau 3 jours, qu'il aura disparu 3 jours. Elle sait désormais qu'il est aux affaires de son Père. Il faudrait parler, je vois le temps qui passe, mais il faudrait parler de la joie de Joseph. La joie de Joseph qui traverse l'agonie de Joseph. L'agonie de Joseph, c'est Joseph qui prend conscience que Marie est enceinte et qui est devant un mur incompréhensible, devant quelque chose qui est impénétrable pour lui. Marie est enceinte, cet enfant n'est pas de moi, cet enfant n'est pas d'un autre. Seigneur, ça t'appartient, moi je me retire. Il prit la décision de la répudier en secret. Personne n'en saura rien, mais toi, Seigneur, tu sais que je ne la regarderai plus comme mon épouse. Elle est à toi, je te la remets. Il y a une pauvreté radicale dans Joseph qui remet Marie entre les mains de Dieu. Ce sera source de joie pour lui, mais à travers quelle souffrance? Quand il eut pris cette décision, l'ange vient lui dire, « Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Tu as bien choisi, je te confirme ton choix. Elle est ton épouse. » Car ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint, tu l'avais deviné, tu ne pouvais pas le dire, tu n'avais pas les mots pour le dire, mais tu sentais bien et tu avais raison qu'il y avait quelque chose d'un mystère divin là-dedans. Oui, ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Et tu lui donneras le nom de Jésus, parce que c'est toi qui en es le Père. C'est la mission que je te confie. Joseph a été retourné là dans cette agonie, il y a quelque chose de radical. Il était déjà silencieux, mais alors là, il est plongé dans un silence impressionnant. Mais c'est sa joie que personne ne pourra lui arracher. La joie, vous rendez compte, la joie d'être l'époux de Marie, la joie d'être le père de Jésus, c'est invraisemblable pour Joseph. Au-delà du pardon, l'abandon, et c'est vrai pour les époux, c'est vrai pour dans tous les domaines où existe le pardon. Au-delà du pardon, je m'abandonne à ton amour. Je m'abandonne à toi. C'est ce que j'appelle l'amour exposé. Et je pose toujours cette question, inlassablement je pose cette question, est-ce que vous êtes de l'amour qui s'impose ou est-ce que vous êtes de l'amour qui s'expose? L'amour qui s'expose, c'est très dangereux, hein. On va en mourir. Mais la joie est à ce prix. L'amour qui s'expose, c'est l'amour de Jésus qui est crucifié. C'est l'amour du Saint-Sacrement exposé, c'est l'amour donné absolument, d'une façon absolue, d'une façon radicale. Est-ce que l'époux ose s'exposer à l'amour de son épouse sans rien imposer? Est-ce que l'épouse accepte de s'exposer à l'amour de son époux sans rien imposer? C'est extraordinaire. Chez les couples qui ont réussi cette bataille, qui ont dépassé cette bataille, c'est une merveille. Les vieux qui s'aiment, c'est merveilleux. Quelle tendresse, quelle victoire de l'amour. C'est une merveille. Il ne faut jamais juger ceux qui ont des chemins plus difficiles, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a quand même vu les uns et les autres des vieux, peut-être nos grands-parents, peut-être des personnes amies qui sont ces vieux au-delà qui entrent dans une espèce de joie paisible, profondément paisible. Alors ma conclusion, j'ai appris ça il y a très longtemps. À vrai dire, j'ai appris ça en faisant mon métier de marin. J'ai découvert, en priant d'ailleurs, mais j'ai découvert que c'est une réalité. Il n'y a pas de joie sans victoire, il n'y a pas de victoire sans combat. Pourquoi Dieu permet-il le combat? Parce qu'il veut que je sois victorieux avec lui. Dieu ne veut pas m'offrir une victoire sans que j'aie participé à la victoire. Dieu me veut victorieux avec lui, par lui et en lui. Et pourquoi me veut-il victorieux? Pour me faire éprouver une joie que je n'éprouverai jamais autrement. Il n'y a pas de joie sans victoire, il n'y a pas de victoire sans combat. Très impressionnant de réaliser ça, très impressionnant de penser ça. C'est à cause du péché, il n'y aurait pas eu de péché, il n'y aurait pas cette question-là. Mais depuis le péché, le combat spirituel est une réalité incontournable dans ma vie. Ma vie passera par ce combat spirituel dans lequel Jésus lui-même est entré pour m'y guider. « Passe derrière moi à Satan, dit-il à Pierre. Tu ne peux pas passer le premier, c'est moi qui vais ouvrir la marche. C'est moi qui vais ouvrir le chemin. Mais passe derrière moi, et tu pourras me suivre et tu me suivras. Et quand tu seras vieux, un autre te mettra ta ceinture pour aller là où tu ne voudrais pas aller. Mais si tu entres avec moi dans le combat, tu seras victorieux avec moi et tu découvriras ma joie. Et je t'ai dit tout cela pour que ma joie soit en toi et que ta joie soit parfaite. » Au fond, la sainteté, qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est la sainteté, je disais en commençant, c'est l'union à Dieu, c'est entrer dans l'amour de Dieu, c'est être uni à cette... C'est spirer, on n'a pas d'autre mot en français pour dire ça, c'est spirer l'amour au-dedans de la Trinité avec Dieu, en lui, comme membre du corps du Christ. Mais sur la terre, de ce côté-ci de la tombe, mon expérience de la sainteté, c'est que je découvre combien je suis aimé. Je découvre, et chaque fois que je découvre à quel point je suis aimé, je redécouvre la source de ma joie. Je découvre la source de ma sainteté, et en découvrant la source de ma sainteté, je découvre la source de la joie. Comme c'est joyeux de se sentir aimé. Et aimé par un Dieu qui ne tient pas compte du mal. Aimé par un Dieu qui n'est jamais arrêté par mon péché. Aimé par un Dieu qui regarde la douleur du pécheur, mais jamais, jamais la gravité de la faute. C'est une joie incommensurable, c'est une joie indicible. Et c'est une joie, à mon avis, je pense que notre mission très urgente, c'est de communiquer cette joie au monde. Elle se communique par un témoignage de vie, elle se communique par la tendresse, elle se communique par l'amour que nous-mêmes nous donnons, en aimant le monde, en aimant autant qu'il est possible les personnes que nous rencontrons. Voilà, je suis très aimé. C'est ma foi, c'est ma certitude, c'est ma confiance radicale et qui un jour me permettra d'entrer dans cette paix définitive, cette paix éternelle. Qui est l'âme rassasiée, je serai rassasié de lui, je serai rassasié d'amour. Pour le moment, si je ne suis pas rassasié, c'est parce que je résiste encore. Il y a quelque chose en moi qui résiste. Mais si je pouvais ouvrir ce qui résiste en moi, je serais rassasié dès maintenant. Et ouvrir ce qui résiste en moi, c'est avouer mon péché sans arrêt davantage. Plus j'avoue mon péché, plus je m'ouvre à la miséricorde, plus je reçois la miséricorde et plus je suis aimé. Plus je suis aimé, plus j'entre dans la joie. Plus j'entre dans la joie, plus je franchis déjà les pas qui me séparent de la paix définitive. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père et Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et tous les vôtres, et il demeure à jamais. Amen. Merci beaucoup d'être venu.